Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Dans cet épisode, nous allons continuer de parler de Conquest, mais hélas, je ne suis pas avec Lienard, car je suis avec Corcadeus. Salut Corca.
Ah bah je note que ça fait... Vous êtes content de me voir, hein, ça fait plaisir.
Non,
hein.
Non mais bon, pour ceux qui s'attendaient... Pour ceux qui s'attendaient à avoir une petite histoire du père, il n'y a pas que le fleuve dans Conquest quand même.
Et non, malheureusement, il y a aussi, c'est avant et surtout un jeu. Bon, il y a un univers qui est cool, hein, mais on est là pour lancer des dés avant tout, pour se mettre sur la gueule dans la joie et la bonne humeur.
Mais c'est qui des dés? Pourquoi est-ce que j'irais gratter des dés?
Non, jeter des dés, pas gratter.
Ouais, mais bon, c'est la vieille pub. Peut-être trop vieille pour certains.
Ah là, c'est pas dire que ça te parle à tout le monde.
C'est ça. On va parler jeu. Et comme tu nous avais présenté vite fait la V2 en macro quand même dans un épisode précédent, suite à mon... je te l'ai proposé et tu as gentiment accepté. On va reprendre un peu, comme tous les épisodes 101 qu'on avait fait sur les factions, sauf qu'il n'y aura pas de fluff, mais justement comment démarrer les différentes factions avec la V2. Justement, en plus dans cette période un peu transitoire où on a vu les futurs starters et où on a encore les anciens starters qui sont disponibles. Et donc la question, c'est justement comment jouer ces nouvelles factions. Est-ce qu'il y a des changements ou pas? Enfin, pas ces nouvelles, ces factions, mais avec ces nouvelles règles, ces nouveaux, comment on appelle déjà, des livres d'armée, je crois que c'est ça qu'ils appellent
Listes d'armées, même.
Comme les listes d'armées. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, pauvre Pelos Landa, je veux démarrer une armée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends le prochain starter? Est-ce que je peux me lancer maintenant? Et ainsi de suite. Et donc, dans cet épisode, nous allons répondre à cette question avec, comme faction...
L'ancien Dominion.
Voilà, ou Old Dominion pour ceux qui sont en anglais.
Pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Voilà,
tout à fait. Donc pour la partie fluff, je vous conseille de reprendre l'épisode 101 où tout ce que Lienard a fait sur le Dominion, pas ancien, enfin comment est-ce que ça a chuté. Et on va directement attaquer. La première question, c'est est-ce que OD a eu un changement, on va dire, de mécanique ou reste toujours à peu près dans la même vibe quand on avait fait l'épisode précédent?
Alors, il y a eu beaucoup de sorties de figurines entre-temps, et il va y en avoir encore quelques-unes qui vont arriver dans les mois qui viennent, mais dans l'ensemble, t'as pas de changement majeur sur les mécaniques de l'ancien Dominion, c'est toujours le même principe d'une armée sans peur. Littéralement, puisqu'il s'agit de morts vivants animés par la volonté de leur dieu ressuscité, fusionnés, on commence à connaître l'histoire. Toujours ce principe d'une armée qui monte en puissance avec l'avancement de la bataille, toujours, ça ne change pas. Toujours aussi cette mécanique d'une double pile de pouvoir, en fait, donc soit qui va viser toute l'armée, soit qui va viser exclusivement la divinité déchue, dont on reparlera un petit peu aussi. Même si j'ai pas fait de liste encore une fois avec elle, parce que j'aime beaucoup la figurine, mais elle coûte quand même une petite bagatelle de sous et c'est de la résine, donc c'est pas donné à tout le monde. Et au demeurant, il n'y a pas de changement majeur sur le fonctionnement de l'armée ou sur ses mécaniques, c'est tout un tas de petits changements à plein d'endroits différents et des changements sur certaines unités qui m'ont, pour certaines, fait planifier des listes différemment, et pour d'autres, il y a certaines unités, on en parlera, qui sont complètement sorties de mes listes pour d'autres.
D'accord.
On en parlera. Voilà.
Ok. On rappelle, comme tu l'as dit quand même, au passage, par rapport à la divinité, ces épisodes sont faits pour démarrer une faction sans non plus vendre de reins et son foie, quoi.
Sinon j'aurais orienté immédiatement les gens vers une édition fondateur pour payer 125 balles pour 4 figurines.
Voilà.
4 très belles figurines au demeurant dont je suis le repossesseur, mais c'est pas la question.
Ça y est, ça c'est le Vanguard qui se la pète.
Faut bien être un
Il
minimum
faut, il faut.
privilégié.
C'est ça. Non, mais voilà, c'est juste pour, bon, voilà, on c'est comment ne pas être ridicule pour jouer avec, mais comment démarrer sa faction tranquillement, posément. On va voir donc des listes à différents paliers pour justement évoluer, lisser ses achats tranquillou. Et peut-être que bah, dans un deuxième temps ou plus tard, on fera des listes vraiment orientées tournoi où là, bah, si vous avez gagné à l'euro million, vous pourrez jouer des trucs un peu plus sympas, quoi. Eh bien, écoute, je sors les listes et c'est bon. On peut y aller.
Ouais,
Donc,
ouais. On peut
première
commencer
liste,
tout de suite
600
par
points.
les listes. 600 points, ouais, donc qui est basé sur le contenu du futur Starter Hall Dominion V2, qui contient donc un Strategos, des Athanatii ou des Varegs, on en parlera un petit peu, des Cataphracti, des Légionnaires et des Prétoriens. Donc, sachant que les Légionnaires et les Prétoriens sont interchangeables. Mais du coup, cette première liste, on va retrouver donc un Strategos avec comme seul et unique, enfin en seigneur de guerre, étant donné qu'il est le seul perso de la liste, avec Calamitas, la lame du Kélésor, item relique classique de la liste qui n'a pas changé par rapport à sa première version. Toujours plus une attaque, toujours cliff plus 1. Pour 20 points, ça reste une relique qui est simple mais efficace.
Bon, c'est bien pour 20 points quand même.
Pour 20 points, ça ramène le Strategos à 5 attaques à clash 3, cleave 1, donc c'est quand même relativement correct. Les Athanatii, qui sont base pour le Strategos, une unité de légionnaire et une unité de Cataphracti, donc tout ce beau monde à l'exception du Strategos est sans option. On prend les figurines, on les pose sur la table, il n'y a pas d'option.
D'accord.
C'est l'occasion de parler un petit peu des changements des différentes unités.
Allons-y.
Tout d'abord, le changement majeur pour les légionnaires, c'est qu'ils ont perdu support plus 1 dans leur Glore d'antan. Ils n'ont plus que phalange. Avec les changements de leur règle spéciale phalange et avec des facs qui sont arrivés très récemment, début mars, on sait maintenant que. Alors, aujourd'hui, phalange nous interdit de nous inspirer tout le temps, donc y compris quand on charge. Sauf quand on a l'effet du tier 3 de la pièce de sombre pouvoir qui, elle n'a pas changé, elle outrepasse toutes les règles, donc on continuera d'être inspiré tout le temps pour toute l'armée au tier 3, enfin au tier 3 de la pièce de sombre pouvoir en tout cas. Donc les légionnaires sont un tout petit peu moins forts offensivement, mais ça reste la même unité de sacrifice qui tanque relativement bien pour une unité, puisque bon, ils sont quand même bah, à résolution infinie en théorie, donc ils prennent pas les tests de morale. Donc, somme toute, bah, c'est des pions à sacrifier pour faire du sombre pouvoir, ça n'a pas changé. Les Cataphractis, eux, sont un peu moins violents qu'avant. Ils ont toujours le Brutal Impact 2, ils ont toujours leur tanking natif qui est quand même assez important d'avoir 4 points de vie défense 4 avec
Déjà
leur
bien.
résolution. Leur problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plus aussi violents qu'ils ont pu l'être auparavant. Ils ne font que 3 impacts, 4 quand ils sont sous l'effet de leur gloire d'antan, avec leur règle spéciale choc, donc ils auront plus 2 en clash au lieu de plus 1 au tour où ils ont réussi une charge pour leur attaque de clash suivante. Le fait est que bah même avec 4 touches, 4 attaques, pardon, d'impact par Cataphracti, on reste clash 2. On n'a aucune façon dans l'armée de buffer
Ouais.
le clash des Cataphracti au moment des attaques d'impact, et sachant que c'est là où se trouve tout leur peps, c'est un petit peu dommage. Donc il faudra plus utiliser l'unité comme unité de cavalerie qu'on peut lancer de front sur une unité ennemie, sauf si on décide de vraiment investir beaucoup de points. Donc là c'est pas le cas, on pose juste les trois cavaliers sur la table, ils sont à 200 points. On les posera vraiment dans l'optique de prendre des unités ennemies de flanc ou de s'en prendre des choses qui sont vraiment très légères, parce que au-delà d'un certain palier de statistiques, en fait, les cataphractiers rebondissent et ils ne sont plus que 12 points de vie défense 4 sans résolution, qui coûte quand même 200 points et qui coûte très cher, parce que même une fois arrivé au corps à corps, bah, ok, tu fais 16 attaques, mais tu as clash 2, donc tu vas pas beaucoup toucher. Donc il faut vraiment préparer l'impact de ces cataphractiers. Bon, là, en l'occurrence, à 600 points, c'est compliqué. On le verra un peu plus tard dans les listes, mais les cataphractis nécessitent une petite préparation pour vraiment maximiser l'effet de leur charge. Et du coup, on va pouvoir parler des Athanasii, qui eux sont une future nouvelle entrée du Hall Dominion, puisqu'ils n'existaient pas encore jusqu'à très récemment, ils sont en précommande aujourd'hui, à l'heure où je parle. Et il s'agit d'une unité qui est alors base pour le Stratégos et restreint pour le Xiliarque. Et il s'agit d'un double kit avec les gardes variés. Donc les Athanatis, c'est une unité qui est mouvement 5, volée 0, clash 2. Ils ont 6 attaques par stand, 4 points de vie, pas de résolution, mais ils sont défense 2, esquive 1. Donc ils sont assez fragiles. Mais en contrepartie, ils sont terrifiant 1, toujours. Ça, c'est natif à toute l'armée, ça n'a pas changé non plus. Ils sont garde du corps. Donc le Stratégos, on va aller le mettre dedans. Et garde du corps, ça a pour effet d'empêcher votre régiment d'être brisé si votre personnage refuse un duel. Donc en fait, votre seigneur de guerre, donc votre stratégos, ici va pouvoir refuser les duels qui lui sont lancés sans risque de mettre son régiment en danger, et sachant qu'on se souvient qu'aujourd'hui brisé en V2, c'est un vrai malus. Il y a tout un tas de palanqués de malus que je vous inviterai à aller voir, qui sont vraiment impactants et qui changent beaucoup de choses. Et il y a surtout une règle spéciale qui les rend vraiment intéressants, en fait, ces Athanatis, c'est qu'ils ont rafale. Donc ils relancent leur jet de touche. Et quand t'as que clash 2, c'est hyper intéressant de te dire, bah, je passe de 1 chance sur 3 de toucher à un peu mieux qu'une chance sur 2. En termes de jet de dé. Je vais pas vous faire les maths ici, mais c'est globalement ce qu'il faut retenir. Et donc mine de rien, c'est hyper intéressant de se dire qu'on a une unité en OD qui touche relativement bien. Alors par contre, après, on va pas se mentir, leur gloire d'antan qui est contre-attaque est cosmétique. Parce qu'en termes de défense, les Athanatis sont des chips. Ils ont défense de esquive 1, il y a un truc qui leur éternue dessus, même au tir, ils vont souffrir. Alors ils ont pas de résolution, bien entendu, mais quand même quoi.
Ouais.
Et par contre, une fois arrivés au corps à corps, ils ont un vrai potentiel de saturation qui n'est pas négligeable. Et là, ils sont clash 2, donc ils sont pas forcément hyper menaçants. Mais s'ils chargent, si on arrive au tier 3, ou si on leur paye un petit ajout d'unité dont on parlera après, ils sont véritablement menaçants. Et pour le coup, au départ, autant dans la version précédente, enfin dans leur itération précédente, je les trouvais un peu juste. Autant aujourd'hui, je pense que il y a un vrai intérêt dans la liste. T'as pas forcément d'unité facilement accessible en OD qui fait juste beaucoup d'attaques. Et eux sont bien pour ça. Ils saturent bien, ils sont assez fiables, mine de rien. Et même à 600 points, ils auront de l'impact.
D'accord.
Du coup, je te propose qu'on passe à la liste 2 où il y a déjà un peu plus de choses à dire.
J'ai une petite question après. Quand même.
Ouais.
T'es parti sur le starter V2 parce que tu te dis que ça va être la nouvelle référence en V2, ou c'est parce que tu le trouves plus intéressant pour démarrer et pour évoluer ensuite que le starter V1?
Alors, je trouve... Alors, pour moi, il y a un double effet. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore d'OD et que tu souhaites démarrer, ou que tu es déjà de l'OD et que tu veux juste compléter, je pense qu'il est plus intéressant que le starter V1.
D'accord.
Le starter V1, pour rappel, c'est un archimandrite, deux unités de Keres slash Mori, puisque c'est un double kit,
ouais.
Et deux unités de légionnaire slash prétorien. C'est un double kit aussi. L'archimandrite n'est pas moins bon, les légionnaires non plus. Les Keres Mori, j'en parlerai un petit peu. Au niveau de la troisième liste, puisque je crois que d'accord. J'y intègre un archimandrite justement,
okay.
et j'en parlerai un peu plus à ce moment-là du cas Keres surtout. Les Mori sont toujours là.
D'accord. Non, mais c'est pour savoir ton, enfin, on va dire la philosophie. Enfin, voilà, non, mais oui, la philosophie sur laquelle t'es parti.
Tout à fait.
Par rapport à ça. Bon, bah, on va commencer à attaquer la mille points.
La mille puntos. Alors. Qui est en fait une liste à 980 points. C'est une habitude chez moi de ne pas finir mes listes. Hein.
C'est pour te donner un peu de challenge quand tu joues. mais tu roules sur l'adversaire et tu dis, j'étais même pas.
Et pourtant,
tu perds.
Le contenu de cette liste à 1000 points est presque. Enfin, à 980 points, pour être tout à fait exact. C'est le contenu de la boîte de démarrage V2, plus un stand de légionnaire. Parce que s'il n'est pas là, le stand de légionnaire, vous êtes à 940 points. Donc ça commence à être vraiment juste. Et pourtant, j'ai mis tout ce que j'ai pu. Hein. J'ai mis tout ce que j'ai pu, je vous assure. Hein. On reste sur le même squelette donc d'un stratégos seigneur de guerre et unique personnage de la liste. Cette fois-ci, le gars ramasse un petit peu plus de choses. On le rappelle que le stratégos a le droit de prendre deux reliques. Hein. C'est comme censé être le commandant d'une légion dans l'ancien Dominion. Donc ici, il a toujours Calamitas et il récupère une armure qui s'appelle l'armure de l'ombre d'Az... enfin la cuirasse de l'ombre d'Azlia, qui donne plus un en esquive au régiment dans lequel il se trouve. Au hasard, sur des Athanatis qui ne sont que esquive 1, qui passent esquive 2, qui résisteront à peine mieux que d'habitude, mais qui au moins seront toujours à défense 2, somme toute. Et qui surtout sont gardes du corps. On va lui donner la maîtrise gladiateur, pareil, maîtrise qui n'a pas changé, qui est toujours aussi bien. L'effet de donner à un personnage rafale, donc relance des touches, la mortelle, donc deux blessures au lieu d'une sur un 6 pour défendre, et parade qui fait que... alors je confonds systématiquement parade et contre-attaque, donc je vais quand même aller vérifier, mais donc c'est une règle défense, c'est une règle défensive sur les jets de touches de votre adversaire, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Mais c'est plutôt lame mortelle et relance des touches qui est essentiellement importante, surtout quand on la combine avec Calamitas qui donne donc cliff plus 1. Et en plus, combiné à ça, on va venir lui donner les servants de combat 1 et 2 qui lui donnent plus 1 point de vie, plus une attaque. Donc il est à 6 attaques, 6 points de vie, clash 3 relançable. Et on va lui donner le servant de Regalia 1. Alors, pourquoi pas le servant de combat 3 qui donne plus 1 en clash et qui fait plus 1, donc qui serait quand même un sacré ajout. La simple et bonne raison, c'est que la Regalia 1 donne plus 2 attaques au stand de commandement des Athanatis, puisque c'est le régiment dans lequel on va le mettre de toute manière. Donc ils sont à 6 attaques de base, ils passent à 8 attaques, ça commence à faire.
Ça commence.
Et sachant que c'est un stand de commandement, ils ont plus une attaque nativement, donc en fait ils font 9 attaques pour un stand de commandement. Donc c'est exclusivement le stand de commandement, c'est pas tout le régiment, mais le régiment commence à faire 21 attaques tout seul. Voilà, sans les attaques du stratégos. Et contre 99% des unités, enfin contre 90% des unités du jeu, le cleave 1 ce sera déjà un malus suffisant. L'endurci 1 ça court pas non plus les rues, on va pas se mentir. Ça reste une rareté. Et les trucs qui annulent les cleaves et les fendres de façon tout simple, c'est extrêmement rare aussi. Donc bon, sauf si vous jouez contre un sans royaume, là faut pas essayer, il sortira systématiquement un truc avec l'argent du dominion, vos propres outils vont tourner contre vous. Mais je me perds. Donc l'objectif, si on veut, c'est que là, le stratégo est déjà létal. À clash 3 relançable, il est déjà très dangereux, il n'a pas besoin de monter à clash 4 et cleave 2. Surtout dans un régiment comme celui des Athanatis qui va juste saturer, en fait il a pas besoin de pénétrer l'armure plus que ça. On se souvient que tout le monde est terrifiant 1 en plus, donc ça contribue à ça. Donc là le stratégos il passe quand même de 105 points dans la liste précédente à 195 là, hein, voilà,
c'est pas rien.
Il fait un peu du simple au double. Les Athanatis qui changent pas beaucoup non plus, si ce n'est que cette fois-ci on leur prend leur portée d'honneur pour relancer leur charge important, et on leur paye le Princeps. Alors le Princeps, j'en avais un petit peu parlé. Dans le macro de la V2, c'est un ajout d'unité qui est propre aux Athanatis et aux Varag, qui, avant leur donner le droit de s'inspirer, ils avaient le droit de faire l'action, en fait. Donc c'était quand même très... limite, on va pas se mentir, puisqu'ils le payaient cher en plus. Aujourd'hui, c'est un ajout d'unité qui fait que vous êtes tout le temps inspiré. Donc il y a un énorme delta de différence. Donc en fait, quand on passe de « je fais 21 attaques à clash 2 relançable » à « je fais 21 attaques à clash 3 relançable », bah, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout même chose. Et ils ont toujours voilà, bon, cette règle spéciale contre-attaque qui, elle, n'a pas changé non plus. Qui est bon, toujours un peu cosmétique étant donné qu'ils n'ont pas une défense mirobolante, hein, ils sont à deux hein, avec le stratégos, mais mine de rien, ça reste bon, bah allez, avec un peu de chance, quand tu fais un 1 pour me toucher, enfin quand je fais un 1 pour me défendre, je te mets une touche, c'est marrant. Voilà, c'est
Oh,
pas.
petit effet qui coulole, quoi.
Ouais, c'est l'effet qui coule. Par contre, du coup, je reparle, puisque du coup, il a toujours parade, il a toujours gladiateur, le Stratégos. C'est vous renvoyer, enfin, vous forcez votre adversaire à relancer les jets de touche de 1 sur votre personnage. Ça, par contre, on le verra. Enfin, il y a des personnages sur lesquels c'est important, donc c'est pas mal. C'est pas mal de faire relancer les 1 de touche, parce qu'il y a beaucoup d'effets qui se déclenchent là-dessus. Donc, c'est bien aussi parade. Mais eux, ils l'ont pas, ils ont que contre-attaque, malheureusement, les Atanatis. Donc, deux blocs de légionnaires, un de 3 stands et l'autre de 4 stands, qui cette fois-ci, par contre, ont leurs ajouts d'unités, donc ils vont avoir leur porte-étendard, leur optio pour gagner leur règle spéciale avant-garde et donc faire un mouvement supplémentaire de 5 quand ils entrent sur la table, ce qui leur permet de se projeter assez loin, et le porteur d'icônes qui leur permet donc de générer un point de sombre pouvoir supplémentaire quand le stand est retiré, enfin quand le régiment est retiré, puisque l'icône bearer est retirée. Avec le stand de commandement, donc le dernier stand du régiment à sortir. Donc, on a entre guillemets 9 points de sombre pouvoir rien que dans les légionnaires, ce qui est bien. Et les cataphractii qui donc gagnent leur porte-étendard pour relancer leur charge, impératif normalement sur de la cavalerie de choc. Et les Taïros qui lui va aussi être là pour leur faire gagner la règle spéciale débordement, règle spéciale dont j'avais beaucoup vanté les mérites fut-il un temps, qui est moins forte aujourd'hui du fait du régiment qui la porte, donc les cataphractii. Pour rappel, donc débordement, c'est à la fin de l'action de charge de ce régiment, si le régiment ennemi au contact est brisé, vous pouvez réaliser votre attaque d'impact une seconde fois, et vous pouvez réaliser jusqu'à 2 actions de charge durant une seule activation avec ce régiment, sachant que cette règle spéciale ne vous permet pas d'ignorer la restriction qui fait que si vous loupez votre jet de charge, vous mettez fin à votre action, enfin votre activation, du moins. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, les cataphractii aujourd'hui sont moins forts parce qu'ils provoquent moins facilement cette règle spéciale débordement, étant donné qu'ils sont beaucoup moins létaux. Donc, les Taïros, là, il est principalement là pour faire du point, on va pas se mentir. Le fait est que si vous avez la possibilité de le provoquer, ça aide les cataphracties à remonter en rentabilité. Mais il faut pas forcément. Enfin, disons que déjà à la base, le débordement, c'était une mécanique où c'était quand même cool quand tu l'as déclenché, et c'était pas forcément automatique de la déclencher, mais ça, quand tu l'avais, c'était vraiment bien. Aujourd'hui, c'est plus un bonus. Alors tu la payes plus comme un bonus, puisque les Taïros ne coûtent que 20 points. Mais ça fait quand même un peu mal pour un régiment comme les Cataphractii qui était assez emblématique de la liste à mon sens. Bon, ils sont moins faciles à utiliser aujourd'hui, c'est peut-être pas plus mal finalement. Donc à ce niveau-là, la liste c'est du classique. Alors, j'en profite pour faire la remarque que vous aurez remarqué que la liste n'a pas de léger, ni à 1000, ni à 600 points. Pour rappel. À partir du tour 2, vous pouvez faire arriver un régiment automatiquement sur la table de vos médiums et vous jetez le dé pour les autres avec les nouvelles règles de renfort qui aujourd'hui vous permettent de fiabiliser un petit peu vos jets de renfort qui permettent à l'OD de sortir un peu la tête de l'eau à ce niveau-là. Bah parce que des lights, on n'en a pas tant que ça. On en a que 2 unités, donc les caresses et les bruits. Et on a une des deux qui est pas ouf, on en parlera.
Oh, tout de suite. Heureuse.
Si, je vous assure, on en parlera, je vous en ferai un cas très détaillé si vous le voulez. Mais donc voilà, mais donc ne vous affolez pas, les listes sont pleines de médiums, c'est normal, c'est voulu. Ça permet quand même de bien saturer vos jets de 2 au niveau au tour 2 et 3, donc c'est pas trop gênant. Est-ce que tu as des questions sur cette liste?
Non, je regardais, je réfléchissais un peu justement par rapport au contenu. Ouais, tu t'as blindé en option, quoi.
Et même comme ça, je galère.
Ouais,
Et même comme
mais
ça, je galère à
bon.
arriver à 1000 points.
Ouais, mais c'est bien, au moins tu montres que on peut aller à 1000 points facilement, bah avec 150 balles, quoi.
C'est ça, voilà. C'est vraiment 150 balles plus des brouettes, histoire de trouver 4 légionnaires en plus. Vous piquerez
Ouais,
bien,
tu prends.
vous piquerez 4 drones à votre pote Spear et puis ça ira bien, quoi.
Non, tu prends un First Blood là, tu prends un Starter First
Ou
Blood,
un
ça
pack
ira
First
bien
Blood,
quoi.
par exemple.
Et en
C'est
plus,
une
comme ça
solution.
te fait des petits machins pour faire tes retenues et tout ça, puisque
Voilà.
maintenant il faut les.
Allez,
Il faut qu'elles soient
prends-toi un
visibles.
Parabellum en tout cas. Ça, c'est encore une autre question, à la limite, dont il faudra peut-être discuter dans un autre podcast.
C'est
C'est
clair.
y a pas que du bon là-dedans, malheureusement. Mais bon, on dévie du sujet.
Cela ne nous regarde pas.
Ah, c'est surtout pas le sujet du jour.
C'est ça. Bon, 1500,
Liste
on
bien chassée.
commence à aller là, ça y est, on
On
commence à aller
commence
sur
à
des
rentrer
listes
dans
de
le vif du sujet.
tournois où on peut jouer et tout ça, quoi.
Alors, tournoi peut-être pas, mais en tout cas, on reste
Oh.
sur l'idée du comment dire, de la liste basée toujours autour de toujours autour de l'ami le starter V2 auquel on va venir pour la bande du Stratégos. Bon, le Stratégos continue de monter en points, il continue de récupérer des trucs. On lui échange le gladiateur et le Calamitas pour Skofnung et Aura de Malice. Et il perd sa Régalia 1 pour un combat 3-1. À 1500 points, voir des unités avec beaucoup d'armure, c'est plus courant. Donc là, avoir un Stratégos qui fait 4 enfin qui fait seulement 5 attaques à Clash 4, mais qui seront cleave 1 de base, cleave plus 1 grâce à Skofnung, cleave plus 2 grâce au combat 3. Donc en fait, t'es assez rapidement à des cleaves assez élevés. Ça lui fait du bien, parce que sinon les Athanatis ils vont commencer à rebondir sur un certain nombre de choses. Puis leur donner briseur de ligne, c'est quand même cool. On va se mentir.
C'est quand même très bien, un briseur de ligne,
C'est.
j'ai
Ouais,
honnête.
c'est.
Hein.
Bah, c'est une règle qui est paradoxale dans la mesure où elle est très bien si tu tombes contre quelque chose qui en souffre, et elle est inutile contre une unité qui nativement n'a pas de bouclier ou n'a pas de bastion. Pour rappel,
Certes.
Briseur de ligne, c'est une règle qui vous permet d'ignorer les effets de bouclier et de l'événement de tirage bastion. Donc, bouclier, c'est quand même assez répandu, ça c'est pas gênant. Bastion, un petit peu moins. Ça reste quand même très bien. Surtout donner ça à une unité qui a autant d'attaques que les Athanatis, c'est toujours aussi cool. On garde la cuirasse de l'ombre d'Azlia. Monter les Athanatis à esquive 2, c'est pas mal. Et l'aura de malice, en fait, elle est là pour. Alors le Stratégos lui-même perd un petit peu en létalité, mais permet de donner effroi aux Athanatis qui empêchent l'ennemi de s'inspirer, donc ça vous fait indirectement gagner en résistance. Donc on est vraiment sur un Stratégos qui, alors, est entre grosses guillemets un peu moins létal, mais qui buff essentiellement son régiment, parce que les Athanatis, là, ils deviennent réceptacle animé, garde du corps, rafale, terrifiant 1, inarrêtable grâce à leur porte-étendard. Briseur de ligne, esquive 2. Et ils ont effroi en plus. Ça commence à faire un régiment qui se trimballe un bon paquet de règles.
Ouais, puis bon, ouais, tu donnes mal à la tête à l'adversaire là.
Alors après, t'as que 12 points de vie, défense 2. Donc en même temps,
Ouais, mais bon, faut les faire tomber quand même.
Ben, si t'as du tir, c'est pas si dur que ça, hein. Ça va vite, hein, 12 points de vie, la défense 2. Ça va très très
Ouais,
vite.
mais bon, il y a que les couillons qui ont des gunlines. Non, je rigole, je te rappelle que j'ai
Oui, justement, je savais pas si je devais renvoyer la balle de façon vraiment moche ou. On garde, alors du coup, cette fois-ci seulement 2 x 3 stands de légionnaire, pas
pas
une fois
mal.
3, une fois 4, mais toujours avec toutes les options, donc icône bearer, standard bearer, optio, les cataphracties, pas de changement, et on rajoute. Dans les 500 points qu'on a retrouvés avec tout ça, un archimandrite, un autre pack de 3 stands de légionnaires et des mouris, donc qui sont nos amis les fantômes de corps à corps qui sont légers. L'archimandrite aujourd'hui, comme tous les sorciers du jeu, connaît tous ses sorts. Il en a payé le prix, puisqu'aujourd'hui il vaut quand même la bagatelle de 90 points de base, si je ne m'abuse. Honnêtement, il y a gagné. Parce qu'il avait 5 sorts dans son domaine, si j'ose dire, si j'ose appeler ça comme ça. Alors il vaut 100 points, tu vois, je me suis trompé, il a pris 40 points dans les miches. Mais aujourd'hui, il connaît 4 sorts, quatre sorts utiles. Que ce soit le soin, le fait de faire monter une unité d'un tiers virtuellement par rapport aux autres, les touches en magie qui peut faire à pénétration d'armure 1, ou le fait de donner aura de mort à une unité, ou de l'améliorer selon ce que l'unité a déjà, c'est quand même pas mauvais du tout. Il a perdu un point de vie, il est plus qu'à 4 points de vie, il a défense un esquive 2, il est mort-vivant, donc il n'a pas de résolution, mais très clairement, c'est pas lui qu'on va amener au corps à corps. Voilà. On lui donne donc la mitre consacrée, qui lui donne prêtre plus 1 par niveau de la pile de son pouvoir, donc il est prêtre plus 1 de base, il passera prêtre plus 2, prêtre plus 3. Le gus arrive à prêtre 9 au total, c'est quand même pas mauvais. On lui donne également Arcane 1, Arcane 2, Arcane 3 en servant, parce que on aime les servants et que le fait d'avoir encore prêtre plus 1, donc prêtre 10 au total, hein, si jamais il y arrive, de réduire le nombre de stands pour les mises à l'échelle de 2. On a parlé, la mise à l'échelle aujourd'hui, elle est assez impactante. Et en plus de ça, de traiter un de vos jets de lancement de dés échoué comme un succès, ça commence à en faire un très 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 bon caster, sachant qu'il n'était pas mauvais de base. Et en plus de ça, on va lui donner une petite maîtrise qui lui fait relancer les 6 lors d'une action de lancement de sort. Donc là, on a la grosse batterie magique qui commence à pouvoir faire pas mal de choses, qui lance bien ses sorts, qui va être accompagnée d'une bande de légionnaires donc, qui ont juste l'optio, qui va essentiellement servir à positionner l'archimandrite sur la table pour se positionner du bon côté de la table et lancer ses sorts. On va se mentir, ils sont pas là pour aller au corps à corps, ceux-là. Eux, ils sont pas sacrifiables parce qu'il y a l'archimandrite avec eux. Et les Mori, qui eux, voilà, sont les Casper, comme j'aime bien les appeler, de corps à corps, avec un mouvement de 6. C'est des sprinters chez l'ancien Dominion. Un clash de 2, 6 attaques, 4 points de vie, pas de résolution, défense 0, esquive 2. Ils sont réceptacles animés toujours. Ils sont rat de mort 2. Ils ont formation fluide, ils sont terrifiants 1. Ils connaissent 2 sorts. Immolation et translocation qui n'ont pas changé, qui sont toujours sur un même principe de pour immolation de buffer l'aura de mort que les Mori ont déjà, et pour translocation de leur permettre de se déplacer de façon très libérée de jusqu'à 8 pas une fois qu'ils ont lancé le sort, sachant que la gloire d'antan des Mori, elle non plus, n'a pas changé. Ils gagnent toujours cleave 1 et prêtre plus 1 par stand, donc nativement ils ne peuvent pas lancer leur sort. Contrairement aux Kérès. Kérès qui n'apparaissent pas dans la liste ici, et on va en faire un petit speech sur ces gars-là, justement.
Allons-y.
Aujourd'hui, même en amical, et je dis ça parce que tout le monde ne joue pas dans une optique d'optimiser ses listes, moi-même le premier, je propose pas ces listes-là pour vous faciliter l'opti, c'est pas opti de toute manière, mais plutôt pour vous donner une bonne base de départ. Et pourquoi je ne vous recommande pas de monter vos fantômes en Kérès, alors parce que les deux options de montage sont cool, des fantômes avec des coutelas c'est quand même bien marrant, mais surtout parce que aujourd'hui les Kérès pour moi se sont pris trop de nerfs, autant du changement de leur profil que des changements de la version. Je m'explique. Les Kérès aujourd'hui, leur profil, il est assez similaire à ce qu'il a été avant. Donc, mouvement 6, volet 2, clash 1, 4 attaques, 4 points de vie, pas de résolution, défense 0, esquive 2. Donc ça change pas trop. Ils sont toujours réceptacles animés. Ils ne font que 3 tirs à 12 pas, avec tir sûr qui fait qu'ils ignorent les règles spéciales d'obscurcissement. Ils sont dévots, ils sont prêtres 1 par stand. Et ça aussi, c'est gênant parce que un de leurs deux sorts folie, qui était leur sort de dégâts directs, a été nerfé. En cela qu'il est passé de 12 à 10 pas en termes de portée, et qu'il est passé d'harmonisation 2 à harmonisation 3. Enfin, plutôt l'inverse. Il est passé de harmonisation 2 à harmonisation... Ah, mais je vais y arriver, zut.
Ouais,
il est passé de harmonisation 3 à harmonisation 2. Et ça, c'est un gros changement, parce qu'on passe d'une chance sur 2 pour chaque dé de réussir à faire un succès, à une chance sur 3, ce qui n'est plus du tout la même chose pour un régiment qui a déjà du mal à lancer ses sorts, et qui en plus a perdu en portée. Et surtout dans tout ça, ce que les Kérès ont perdu, c'est qu'ils ne comptent plus comme obscurcis nativement, ce qu'ils étaient avant, ou occultés, je crois que c'est occulté plutôt, pas obscurci, donc, qui fait que avant, quoi qu'il advienne, quand on leur tirait dessus, ils étaient systématiquement, on divisait systématiquement son nombre de tirs par deux, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc ils sont moins résilients, ils sont moins bons sur leur lancement de sort, ils sont moins bons sur leur tir, ils font strictement rien au corps à corps, mais bon, ça n'a pas changé. La seule chose qu'ils ont gagné au final en 7v2, c'est que pour 10 points de plus par rapport à leur coût en points de base d'avant, ils connaissent leurs deux sorts. Là où avant, ça leur aurait coûté 180 points. En fait, quand on les compare aux Mori, qui sont systématiquement utiles, même sans leur sort, parce que tu te dis, bah, avec un régiment qui va aller au corps à corps, parce qu'ils font, ils font que ça de toute manière, mais ils font 19 attaques, enfin 18 attaques, de clash 2, ils seront peut-être cleave 1, s'ils ont le temps de faire leur lord d'antan, s'ils ont le temps, mais eux, t'as pas de regret de les jeter au corps à corps, ils sont là pour ça. Les Kérès, en fait, alors c'est la mise à l'échelle et c'est l'augmentation de puissance de folie qui fait ça. En fait, t'aurais presque envie de les garder au tiers 2, au tiers 3. Mais en fait, c'est pas intéressant parce que tu te dis, leur niveau de puissance maximum, c'est prêtre 12, donc 6 stands qui auraient leur gloire d'antan activée. Et même comme ça, tu te dis, je vais faire 8 touches et ça coûte 310 points. Alors oui, tu fais 8 touches sur... Enfin, 4 touches, pardon, puisque tu jettes 12 dés, t'en réussis 4 en théorie. Et ça te fait 8 blessures. Et c'est 8 blessures sur la caractéristique de résolution non modifiée, la plus basse du régiment ennemi ciblé. Mais tu payes pas 310 points pour faire 8 touches. Surtout à 10 pas, en fait.
Ouais, c'est clair que bon, c'est pas fou, quoi.
Et même comme ça, c'est-à-dire que si jamais tu fais 9 succès et 3 réussites... T'as pas de fiabilisateur, t'as rien pour les aider à fiabiliser leur jet de magie. Et même comme ça, tu te dis, bah ok, j'ai blasté les mecs en face. Genre vraiment, tu te dis, allez, t'as fait 5-6 succès, t'as fait 12 trucs. Et tu te dis, bah oui, mais t'es au tiers 2, tiers 3, tu vises quoi là? Tu vises un truc qui a défense 3, enfin résolution 3 de base plutôt. Les mecs, ils vont encaisser la moitié, ou plus. Et puis en fait, bah derrière, t'es à 10, ils te chargent en fait. Et une fois que tu es au corps à corps, tu ne fais plus rien. Ouais. Parce que tu vas jamais tuer personne. Hein, t'as clash 1, t'as 4 attaques, tu touches jamais. Et t'as perdu 310 points. Alors, ok, oui, c'est 6 points de son pouvoir. Mais à ce moment-là, c'est plus intéressant pour 50 points de plus de prendre 2 packs de Mori, en fait. Alors, ok, ils sont restreints. Mais eux, au moins, ils feront quelque chose. Donc, en fait, okay. Et même, tu te dis, allez, je prends les Kérès et je les garde, j'essaye de les sauvegarder. Juste pour leur deuxième sort, qui est Drain de Volonté, qui a une portée de 12. Alléluia, il est un peu plus long. Mais il est harmonisation 3, et là tu te dis, punaise, c'est bon, cette fois c'est le sort qui les sauve. Et ben non, il est mis à l'échelle. Il est mis à l'échelle, donc. Alors ok, tu colles défense moins 1, et si jamais tu fais plus de 4 succès sur le sort, il y a une touche supplémentaire sur les auras de mort. Attention hein. Et il faut réussir à lancer, c'est mis à l'échelle, c'est pareil. Supposons tu refais le pack de méga Kérès de 6 stands, ouais. faut vous visualiser quand même ce que ça fait 6 stands quand même. Il faut que vous soyez à 12. Donc en plus vous avez votre défense de 2, hein, voilà. Vous avez que 24 points de vie, ça va vite. Tu lances un sort, et pour être fiable, t'as 310 points de mecs qui ont lancé un sort pour mettre défense moins 1. T'as payé 310 points. Donc en fait, les Kérès. Soit il faut qu'ils tirent mieux, soit il faut qu'ils lancent leur sort mieux, soit il faut qu'ils fassent autre chose. Mais aujourd'hui, en fait, ils ne font rien bien.
Ouais, ils n'ont
pas moyen sur certains trucs. Et alors qu'à côté de ça, bah, t'as les Mori, et les Mori, ils tapent bien au cac, correctement. Ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire aller tout droit, taper, mourir, faire des points pour l'armée. Là où les Kérès, ils ne font que des points. Mais si tu veux prendre des points de sombre pouvoir, bah tu payes 4 stands de légionnaire à 160 points et ce sera la même chose. Et ils seront plus résistants, et ils seront plus utiles, et ils prendront les objets.
Je comprends.
Du coup, bah les Kérès aujourd'hui, bah moi je j'arrive pas à les justifier en fait. Ils sont pas justifiables dans une liste en fait. Ils sont pas justifiables dans une liste. Et même en amical, parce que tu pourrais dire, bah pas grave, je les joue en amical parce qu'ils seraient un tout petit peu en dessous. Mais là, ils font vraiment rien de rien de rien, quoi. Et c'est dommage parce que les figues sont cool, hein. Je veux dire, des fantômes qui te lancent des éclairs de mort, c'est quand même cool. Mais, mais là, vraiment, non. C'est trop compliqué. C'est trop dur pour les Kyres. Et c'est dommage parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin de leur taper autant dessus, mine de rien. Et ils ont beaucoup souffert. Alors, entre autres pour leur tir du passage à la V2. Et puis en plus, voilà, je vous parle même pas de la situation où vous lancez votre sort sur un régiment qui a un magicien dedans. Alors là, c'est même plus la peine. Hein. Vous êtes harmonisation 1 ou harmonisation 2, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le régiment. Donc voilà, bon, c'est dommage pour les Kyres.
Non, je comprends.
C'est dommage pour les Kyres, malheureusement.
On peut passage... pas tout avoir.
Et oui, malheureusement, on peut tout avoir. Passage à la liste à 2000 points.
La liste à 2000 points, là, on commence à vraiment.
Las passage et sas 2000 puntos. Alors, passage à 2000 points, pas de gros changements, somme toute sur le contenu elle-même de la liste. Alors, le Stratégos redevient gladiateur. Il perd l'aura de malice, donc il coûte un tout petit peu moins cher. Il a gardé Skofnung et la cuirasse de l'ombre d'Azlia. Il a toujours son combat 1, 2, 3. Il a toujours ses athanatiques qui, eux, sont passés à 5 stands, par contre. on rajoute une banque de 8 points de vie supplémentaires.
Ouais, quand même, il y a 100 en plus, quoi.
On transforme les deux packs de légionnaires du Stratégos en un seul pack de 6, donc avec porte-étendard, porte-icône, l'optio, donc on fait un gros pack unique. Les 4 factis ne changent pas. L'archimandrite, lui, récupère un pack de légionnaires de 5. Il a toujours ses moris, il a toujours son pack de légionnaires de 3 qui vont l'accompagner, et il a aussi gagné les golems des tombes, qui pour moi sont une idée presque signature de la liste d'armée, tellement ils sont imbutables et tellement ils sont stables, ces mecs-là. C'est un vrai plaisir pour les avoir joués. Ils ont aussi une bonne palanquée de règles, on va se mentir, les golems des tombes, c'est une unité de brute lourde, mouvement 6, volée 0, ils tirent pas de toute façon, c'est pas grave. Clash 2, 4 attaques, 6 points de vie, résolution infinie, défense de 3, ils sont durcis 1, ils ont pas d'esquive, en même temps c'est des cailloux. Ils sont réceptacles animés, ils ont aura de mort 2, leur gloire d'antan c'est aura de mort plus 1, donc ils arrivent aura de mort 3, c'est quand même pas mal du tout. Ils sont fendre 2, ils sont durcis 1, comme on en parlait un peu avant, ils ont impact 2, mais ça c'est cosmétique. Ils sont terrifiants 1, ils sont inarrêtables nativement, donc ils relancent leur charge nativement, et ils ont frappe implacable qui fait que pour chaque 1 pour toucher, vous faites une touche supplémentaire, ce qui, en termes de chiffres, vous amène plus ou moins comme si vous aviez Clash 3. Et puis, punaise, qu'est-ce que ça tank, ces trucs-là, c'est juste formidable. Entre leurs 6 points de vie, leur défense de 3, qui est quand même très loin d'être mauvaise, et leur endurci 1, les golems des tombes sont très bien pour se poser contre une unité et l'emmener, comme je le disais déjà en V1.5, en fait, ils font toujours très bien ce qu'ils faisaient déjà avant, c'est-à-dire se poser contre une unité qui a pas de cleave ou cleave 1, les emmener dans une guerre d'attrition par leur propre... parce qu'ils ont quand même cleave 2, ils sont pas ridicules là-dessus. Ils ont 18 points de vie, ils sont de défense 3, ils sont durci 1, ils ont pas un jet de résolution à faire, ils sont pas faciles à tuer, et au bout d'un moment, bah, tu les actives, passé un certain point, tu te dis, je suis au tiers 3, je suis collé à ton régiment en face de moi c'est pas encore activé, bah nativement j'ai plus 1 mon aura de mort, donc je suis aura de mort 3 par tête de pipe, je me remets au aura de mort parce que comme ça je suis aura de mort 4, je suis inspiré tout le temps au tiers 3 donc je suis clash 3, je te tape dessus et quand toi tu vas t'activer tu vas prendre 4 touches par golem qui sont terrifiants, hein, c'est pas vrai. Donc l'unité est... Alors, en fait, quand tu regardes comme ça, tu te dis, bah, ils sont pas super létaux. Mais, ce qui, pour des brutes à 210 points, effectivement, ils sont pas si létaux que ça. Mais en fait, ils sont plus vicieux. C'est-à-dire qu'ils vont pas te faire des dégâts directs tout le temps. Et l'aura de mort 4, elle surprend. Moi, j'ai vu des hoplites comme ça se faire surprendre par ces trucs-là, et ça leur fait tout drôle. Quand t'as 2-3 stands qui sautent juste à cause des touches d'aura de mort, ça fait tout drôle.
Oui, c'est...
Donc là, vraiment, voilà. Alors, et globalement, encore une fois, la liste, voilà, c'est poser les légionnaires sur les objets, venir aller choper les flancs avec les athanatis, les cataphractis. Alors, les athanatis, il faut vraiment les positionner en face de quelque chose qu'ils peuvent tuer, hein, parce que sinon, ils vont galérer. Donc il faut éviter les unités avec une défense native qui est haute. Il faut les envoyer vers quelque chose qui a idéalement bouclier et bastion. C'est là où ils excelleront le plus, de fait, du fait de briseur de ligne. Les cataphracties, même chose. Faut pas les envoyer face contre quelque chose qui est assez fort de base. Et voilà, les golems, vous pouvez les envoyer contre plus ou moins n'importe quoi. Ils rentreront et ils fonctionneront de toute manière. Et les Mori, même chose. Hein. Les Mori, il faut aller chercher des unités de tir avec eux. Du coup, c'est quand même... Alors, après, là, au vu des listes que j'ai faites, je suis parti du starter, donc forcément, ça limite un petit peu les choix, puisque le Stratégos limite un peu les choix. Mais dans les sorties, aussi, on a eu pour le... Alors, entre guillemets, une double sortie pour le Hiro Direct et la Divinité Déchue, en la personne des Canéphores et des Caryatides. Donc les statues. Les statues animées de corps à corps et de tir, respectivement. Qui sont deux très bonnes unités. Deux très très bonnes unités, même. Puisque les Caryatides sont toujours une des unités qui tirent le plus loin du jeu, puisqu'ils ont 20 pas de portée. Alors, ils ont plus leurs 30 pas de portée absolument légendaires, c'est dommage. Et heureusement, quelque part... mine de rien, elles font 3 tirs chacune, à voler 2, 5 points de vie, défense 3, à 20 pas, c'est quand même très loin d'être ridicule. L'orgueur d'antan leur donne barrage plus 1 et formation fluide, donc ligne de vue à 360 degrés pour tirer. Donc, sachant que la règle spéciale réceptacle animé vous interdit de vous inspirer mais pas de viser. Bah, tu fais 4 tirs à voler 3 à 12 pas, enfin à 20 pas, donc 12 tirs à 20 pas, pénétration d'armure 2. Quand t'as des régiments ennemis qui sont bloqués, par exemple, dans des légionnaires, dans des prétoriens, c'est pas mauvais du tout. Et les canéphores, qui sont un tout petit peu moins forts qu'avant, heureusement, qui sont descendus de 20 points. Qui sont des brutes lourdes, alors qui sont un petit peu en concurrence entre guillemets avec les golems. Les canéphores sont plus faits pour être vraiment offensifs, puisqu'ils sont à clash 3, 5 attaques, ils sont défense 3, esquive 2. Ils ont esquive 2 bien, donc même contre des unités qui sont violentes, bon, après ils sont durci 1 aussi, donc ils seront pas faciles à tuer au corps à corps. Ils sont seulement cleave 1. Mais l'angle d'antan, en fait, leur donne frappe parfaite, qui fait que sur un pour toucher, vous ignorez la défense ennemie. Donc, c'est pas mauvais du tout, quand même. Benny vous donne la flexibilité de vous dire, contre une unité ennemie qui va faire beaucoup d'attaques, par exemple, je vais relancer ma défense de 3, donc je vais avoir une défense de 3 relançable, c'est quand même pas mauvais. Si c'est moi qui frappe le premier, je vais faire mes 15 attaques relançables, comme ça je maximise au maximum mes touches avant la riposte. Donc il y a une flexibilité sur l'unité qui est pas mal. Et surtout ça ouvre un petit peu les options. Alors, seul défaut de cette unité-là, c'est qu'elles ne sont accessibles que par le Hiro Diacre. La divinité déchue, si vous en jouez une. Et outre unité dont j'ai pas forcément parlé, mais qui va devenir disponible du fait de l'arrivée des dettes natives, puisque ce sont le même double kit, c'est les gardes Vareg. Et les gardes Vareg, oh mon dieu, au moins à Zéga, si j'ose dire.
Je t'aurais dit.
Tu rêverais que je t'appelle comme ça.
Que veux-tu ?
Alors, la garde Vareg, enfin les gardes Vareg, puisqu'ils sont plusieurs, c'est de l'infanterie lourde, mouvement 5, volet 0, ils tirent pas, c'est normal. Clash 3, 4 attaques, 6 points de vie. 6 putains de points de vie.
6 !
Oui. Ah oui, les morts vivants, ils rigolent pas là. Pas de résolution, puisqu'ils sont restés avec l'animé. Défense 3, esquive 1. Ils se payent le luxe d'être endurci 1, les cocos. Donc ils sont à 6 points de vie, endurci 1, défense 3, esquive 1, pas de résolution. Mettez-vous ça dans la tête. Ils sont nativement fendre 2. Ils ont un leader. Ils ont la possibilité de payer le porté-tendard à 10 points. Ils ont le princeps qui les inspire constamment pour 30 points. Donc, globalement, réfléchissez pas, ils seront toujours avec porté-tendard et princeps. Donc, ils sont à 220 points. Et surtout, c'est leur gloire d'antan en fait, qui change complètement la donne. Ils sont à fendre plus 1 et briseur de ligne. Laissez-moi vous dire qu'un régiment comme ces mecs-là, qui rencontre n'importe quoi avec Fendre 3, Briseur de Ligne, sachant qu'ils sont systématiquement Clash 4.
Ça rigole pas.
C'est plus ou moins le débouche canette ultime. Ces mecs-là, ils touchent un truc, ils le dézinguent. C'est juste exceptionnel. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. D'autant que, si jamais Louis Poazlia vous arrivez au tier 3 avec cela, rien ne vous interdit de faire votre gloire d'antan deux fois. Donc là, vous êtes à Fendre 4, Briseur de Ligne.
Oh putain.
Et donc en fait, là, il n'y a plus aucune idée dans le jeu qui survit. Mais plus aucune, il n'y a plus personne qui survit à ce stade. Votre adversaire a intérêt à avoir de l'esquive. Voilà.
Ok.
C'est-à-dire qu'à ce stade, on arrive à l'unité qui a, je crois, la seule pénétration d'armure 4 potentielle du jeu. Voilà. Et comparé à avant, où en fait ils souffraient du fait qu'ils n'avaient qu'un seul point de vie par figurine, donc ils étaient 4 blessures par temps, ouais, somme toute. Et qui coûtaient assez cher, ils étaient à 220 points de base. Aujourd'hui, ils sont plus létaux, ils ont la relance des charges, et ils ont plus de points de vie et une meilleure défense pour le même coût en points quand tu les ramènes à leur ancienne version. Puisque là, ils sont à 180 points, une fois que tu as payé toutes les options, ils sont à 220. Donc leur même coût en points qu'avant, dans l'intervalle, ils gagnent une relance des charges, et ils sont toujours inspirés, et ils ont une et leur potentiel offensif est du coup strictement meilleur. Et ils ont plus de points de vie. Et ils ont durci.
Et ils font le café.
Non. Et ils font le café, les croissants, et ils te font même un massage si tu demandes poliment.
Ah mais punaise, non mais attends, c'est quand même...
Ceci étant dit, parce qu'il faut quand même, il faut quand même ramener les choses dans le bon ordre. Ils sont lourds, donc ils arrivent relativement tard. Si on les fait pas rentrer automatiquement, on a vu qu'il y a quand même les golems des tombes et les canéforts qui sont aussi deux autres bons choix lourds. Ils sont lents, ils sont à 5 pas de mouvement, il y a zéro augmentation de mouvement sur eux, il n'y a pas d'option surprise, heureusement, hein, parce que sinon ils seraient vraiment complètement stratosphériques.
Tu me rassures.
Ouais. Par contre, le moment où ils toucheront un truc, ils le satellisent. Voilà. Mais c'est leur job. D'un autre côté, ils sont hyper lents, ils sont assez peu maniables puisqu'ils n'ont pas de formation fluide, ils n'ont pas de tirailleurs, ils n'ont pas tous ces trucs-là qui leur permettraient de te dire je vais pouvoir triquer. Ils sont assez lents, somme toute. En fait, pour moi, la garde Varek, c'est les tueurs de dragons de l'ancien Dominion. En fait, ils frappent extrêmement fort, ils sont super durs à tuer. Mais ils sont super lents. Donc en fait, tu peux. Si par exemple, tu joues, je sais pas moi, 100 royaumes, tu leur jettes tour après tour des unités de miliciens, bah, au bout d'un moment, oui, tu perds des miliciens, mais tu perds 75 points. Il y a 220 points, voire plus de gardes varek qui sont keblo à taper sur des mecs qui de toute façon seraient morts. Donc, c'est pas une unité game breaker. Alors ils frappent extrêmement fort, ils sont très résistants, ça d'accord, mais les tueurs de dragons le sont aussi, et ils sont pas, enfin ils le sont plus game breaker aujourd'hui. Mais du coup alors en plus les gardes varek ne sont accessibles que pour un seul personnage qui est le Xiliarque, dont on n'a pas parlé ce soir mais qui est bien aussi, et somme toute, bah du coup les varek, tu te dis bah ok, bah pire cas de figure, sauf si le mec est vraiment un bourgeois et il en joue 4 unités parce qu'il joue 2 Xiliarques avec 2 autres unités de base chacun. Mais bon, là, le mec, il a vraiment une idée en tête. Hein. C'est fou, c'est une lubie. Bon, on va dire le contraire. Mais donc, voilà, les Varek sont vraiment très, très, très cool. Que dire d'autre, si ce n'est que qu'il manque plus tant d'unités que ça dans la liste. Il ne manque plus que les Centaures, les Bucéphalies, qui sont les minotaures de l'ancien Dominion. Hein. Un jour, on les aura, nous aussi. Il nous manque, finalement, en termes d'infanterie, il nous manque plus que ce qu'on suppose, ce qui sera le double kit, des cultistes et des assassins, qui sont donc respectivement, qui sont les seuls humains de la liste, pas les morts-vivants, et le sépulcre profane, qui auparavant était un espèce de buffer bizarre, et aujourd'hui c'est un, je sais pas si t'as été voir son profil, mais il a une mécanique que je trouve très fun. En fait, il a un événement de tirage qui fait qu'il se colle des PV à lui tout seul. C'est un monstre médium à la base, il a 36 points de vie le machin, mais en fait tu peux quand tu l'actives, tu lui dis bah, il va prendre des pèves. Donc par exemple, tu peux choisir dans une liste d'effets en fait. Par exemple, il perd 6 points de vie, mais pendant le tour, il a plus 4 attaques, il a inspiré et il a cliff plus 1. Donc en fait, il va faire 12 attaques à clash 3, cliff 1, par exemple. Ou alors, il va faire compter une unité comme cache au tier 3, il va augmenter la caractéristique d'attaque des régiments, et il a ce que nous on appelle le nuke. Donc il a une bombe nucléaire dans le dos quand même. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de lui faire subir X blessures. Donc vous choisissez le nombre de blessures. Hein. Ces blessures ne lui causent pas de test de résolution. Heureusement, de toute façon, il n'en a pas. Le régiment ennemi à 10 subit X nombre de touches, où X est égal au nombre de blessures que vous avez choisi de lui faire subir juste avant. Donc rien ne vous empêche de lui en faire prendre 35. Ces touches ont pénétration d'armure 1 et comptent comme venant du flanc, mais ne font pas de test de morale, heureusement. Donc... En fait, vous pouvez, somme toute, vous avez le droit, hein, vous pouvez payer 270 points pour me dire je vais aller tout droit et je vais mettre 35 touches pénétration d'armure à un régiment, je veux qu'il disparaisse.
C'est de l'overkill.
Oui, mais c'est très drôle.
Ah, je ne dis pas que c'est pas drôle, mais c'est de l'overkill.
Ah, complètement, oui. Je crois qu'il n'y a pas grand chose qui survit à 30. Enfin, si, il y a plein de choses qui survivent à 35 touches pénétration d'armure 1, mais. Mais c'est quand même très drôle, je trouve. Je sais pas, il y a un truc, c'est fun, tu vois. Et soit dit en passant, comme
on n'a pas la même notion de fun, je pense.
Je sais pas, moi, le fait de jeter 35 dés d'un seul coup, ça me fait marrer, mais c'est parce que j'ai dû être un joueur orc dans une vie passée, c'est pour ça.
Ouais, c'est ça, c'est
tout
reposant, quoi. 35,
soit,
c'est rien du tout.
Soit, oui, bon, 35, c'est la base, c'est la première salve. Alors, par contre, voilà, bon, je parle du nuke parce que c'est l'aspect le plus marrant, mais bon, faire passer une unité cache au tier 3, c'est quand même pas ridicule. Son profil de corps à corps est correct, mais c'est pas pour ça qu'on va le prendre. Le fait de donner plus 2 à la caractéristique d'attaque des stands de commandement de tous les régiments amis à 12, enfin de tous les stands de commandement amis à 12, donc c'est pas les régiments, c'est faut vraiment que les stands de commandement soient à 12, c'est pas ridicule non plus, c'est un monstre quand même, donc c'est une sacrée, c'est un gros stand. Et puis mine de rien, alors il peut pas être soigné, heureusement, hein, on va pas se mentir. Toute sa mécanique découlant du fait de prendre des points de vie, heureusement, il ne peut pas être soigné. Il compte comme taille 2, malgré le fait qu'il soit un monstre, donc ça c'est bizarre, bon, on va pas se mentir. Et il compte comme 5 stands pour ce qui est de capturer les zones d'objectif. Donc ça c'est pas non plus complètement con.
Ouais.
Et par contre, votre armée ne peut contenir qu'un seul sépulcre profane, heureusement, donc, quelque part, parce que je pense que. Une bombe de 35 touches, tu te dis bon, ça va, ouais, deux ou trois, ça commence à devenir compliqué.
Je pense qu'ils ont quand même dit on va peut-être mettre un petit disjoncteur.
Genre une petite. Non, petite. Donc, du coup, aujourd'hui, maintenant, je suis très curieux de voir ce que ça va être. Est-ce que ça va être une espèce de giga golem de l'enfer ou pas? On verra bien, j'imagine. Mais donc, ça va être très fun. Et une dernière chose dont je vais parler, avant que tu ne poses tes questions, c'est. Évidemment de Dominique, Didi, la divinité, qui a un peu changé. Elle coûte toujours 300 points. Rassurez-vous, elle n'est pas descendue. Mais qui a gagné, à mon sens, en résistance et en létalité. Aujourd'hui, c'est toujours un monstre léger. Qui a toujours attaque de flanc, donc qui peut toujours rentrer sur la table au tour 1, qui augmente, toujours selon le même principe, donc qui augmente de profil en fait au fur et à mesure que vous mettez des points dans sa pile à elle, sachant que si vous la jouez, elle doit être votre seigneur de guerre, elle peut faire des duels, elle fait des duels comme un personnage, elle ne peut pas refuser les duels, donc ça c'est sa capacité de suprématie, vous pouvez en avoir qu'une seule dans votre armée. Elle doit être votre seigneur de guerre, elle peut pas acheter de reliques, elle peut avoir jusqu'à 3 bénédictions noires. Donc il y a tout un tas de règles qui l'entourent. Ça va changer. Le gros changement, c'est que son profil de tier 2 et de tier 3 sont un tout petit peu plus intéressants dans la mesure où elle passe plus rapidement à un nombre d'attaques et de points de vie intéressants. Un tout petit peu. Mais c'est des changements de 2 en fait. C'est pas grand chose. Par contre, le gros changement pour moi, c'est qu'à partir du tier 1, déjà au tier 1, en fait, elle est endurcie 1, et au tier 2, elle est déjà endurcie 2. Donc elle réduit les pénétrations d'armure de 2. Et elle le garde au tier 3. Hein. Rassurez-vous, elle ne monte pas endurcie 3, faut pas déconner, mais Rien que ça, c'est déjà suffisant.
C'est déjà pas mal.
Au tier 3, pour rappel, la divinité, elle est mouvement 8. Volée 4, on s'en fout parce qu'elle tire pas de toute façon. Mais elle est clash 4, 12 attaques, 15 points de vie, défense 4, esquive 1. Elle est... attaque l'animée. Elle est terrifiant 3. Donc par contre, elle n'arrive plus à terrifiant 4. Grande nouvelle, mes amis.
Oh,
elle
dommage.
N'est plus que terrifiant 3. Elle est bénie. Donc relance des touches ou relance des défenses. Brutal impact 3. Fendre 3. Attaque de flanc. Vous vous en foutez, elle est déjà rentrée sur la table. Pile de son, enfin le puits de pouvoir noir qui fait que les marqueurs de pouvoir générés autour d'elle doivent lui être alloués, mais ça, c'est, ça n'a pas changé non plus. Elle est endurcie 2. Elle fait 5 attaques d'impact nativement. Elle est terrifiante 3. Elle a tenace au tir 3. Avant, elle l'avait au tir 1. Donc les règles se sont interchangées. Et elle est inarrêtable, donc elle relance ses jets de charge, mais ça, elle l'a déjà à partir du tir 2. Donc en fait, au tir 3, en fait, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui l'arrête. C'était déjà vrai avant. Aujourd'hui, il y a vraiment plus grand chose qui arrête une divinité au tier 3. Sauf un pâté de tueur de dragon, mais ça, il n'y a pas grand chose qui rentre dans un pâté de tueur de dragon et qui les tue. Sauf peut-être des gardes varils.
Ouais, là, ça peut être le gros combat de gros ton, tu sais.
Je pense que c'est de en fait, c'est de l'annihilation mutuelle. C'est-à-dire que le premier qui tire a gagné. Parce que les tueurs de dragon, ils pulvérisent les varils s'ils les touchent. Et s'il les tape d'abord, et inversement pour les varics. Si les varics tapent d'abord, ils désinguent les tueurs de dragons sans la moindre difficulté. Mais pour revenir à la divinité, voilà, elle n'a pas changé, elle constitue à elle seule un archétype de liste, en fait.
Oui.
Voilà, ça n'a pas changé. Et en fait, pour moi, ce qui me fait mettre un petit peu un holà, c'est un truc dont j'ai pas forcément parlé jusqu'à présent, c'est que le fonctionnement des paliers a un petit peu changé. De base, il faut savoir que tous vos paliers sont montés d'un point. Donc en fait, avant, le tier 1 se trouvait de 0 à 6 marqueurs, aujourd'hui il est à 0, 7. Et ainsi de suite pour tous les autres. Il y a un plus 1 partout en fait. Donc on pourrait se dire, ah, ça fait un peu mal, c'est un peu gênant, tu vois. Bon. Sauf que, auparavant, quand tu jouais des batailles plus petite ou plus grosse, donc on va pas se mentir, c'est quand même très rare qu'on voit plus de 2000 points, tu augmentais ou réduisais chaque niveau de palier par, enfin, d'un point pour chaque tranche de 300 points en dessous ou au-dessus de 2000 points. Ce qui était un nombre bizarre parce que personne jouait à 1700 ou 1400 points. Donc aujourd'hui, c'est des tranches de 250 points, ce qui est déjà beaucoup plus logique, ça correspond beaucoup plus à ce qu'on fait. Jouer à 1750, 1250 ou 1500, c'est quand même déjà plus collant à ce qu'on fait.
Oui.
Sauf que le gros changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas moins un point, c'est moins deux points par tranche de 250 points. Et ça change beaucoup de choses. Donc maintenant, reprenez les listes dont on parlait avant, et tu regardes et tu dis, ah, mais en fait, la liste à 1000 points, bah, elle commence au tier 2 en fait. Parce que tu fais 0,7 moins 8, en fait, t'es au tier 2. Donc toutes tes gloires d'antan, elles s'activent automatiquement dès le tour 1.
Ouais.
À 1500, même chose, t'es à moins 4 points. Donc en fait, ton tier 1, il est entre 0,3. Ton tier 2, il est entre 4 et 12 tokens. Et ton tier 3, il est entre 13 et 17 plus tokens.
Ouais.
Et en fait, finalement, les tiers qui vous sont montrés sur la page de présentation des piles d'exaltation, ne sont vrais qu'à 2000 points en fait. Parce que en dessous c'est moins, ce sera moins que ces paliers-là, et au-dessus, bon, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de partie, il y a plus de 2000 points qui a été fait à Conquest, mais je ne sais pas, peut-être que c'est le cas quelque part dans un coin reculé, ils jouent des parties à 4000 points régulièrement, il y a un méta là-bas de 4000 points, mais bon, bref. Quelque part, je ne sais pas.
Ah, peut-être. Tu sais pas, ils font des apocalypse Conquest.
C'est une possibilité, hein, peut-être un jour. Hein.
Peut-être.
Tout ça pour dire que le comment dire, ce changement de palier, il est assez significatif parce que on se dit, ah mais finalement, les paliers fonctionnent plus de la même manière. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah ouais, mais là, je suis déjà au tier 2, donc l'armée ne joue pas de la même manière. Les Mori qui cachent commencent au tier 2, donc ils sont tout le temps prêtres qui peuvent du coup lancer leur sort sans avoir à se poser la question de dépenser une action, ça change tellement de choses. Ça change tellement de choses.
Ah, ça change beaucoup.
Ça change beaucoup. Et donc au final, ben, tu te dis que l'armée, presque en fait, dans les petits paliers, elle est plus forte en fait.
1500, moi je me rappelle, c'est quand même déjà. Enfin, pour avoir affronté Mika à Gif, c'est. Ouais, très vite, quand tu commences à faire des frags, ça buff très vite. Au tour 4, tour 5, il était déjà full, quoi.
C'est ça, voilà. Sachant que là, on n'a pas parlé, mais la mécanique de génération de points ex nihilo de l'ancien Dominion, donc à savoir le Hiérodiacre avec le Soma Blasphématoire qui sacrifie des légionnaires pour faire péter des points en plus, ça existe toujours, hein. Ça n'a pas changé, hein. C'est toujours là et ça coûte toujours aussi peu cher d'ailleurs. Pareil, bah faut s'en méfier. Voilà, il peut y avoir des points qui apparaissent de nulle part, hein, si j'ose dire. Tour 2, tour 3, bah, tu peux très facilement avoir déjà 5, 6, 7 points qui sont apparus parce que juste le joueur Old Dominion a fait des trucs, quoi. Voilà, c'est pas...
C'est comme ça, c'est le principe.
Oui, c'est ça, voilà. Et il n'y a rien de... C'est, enfin, en fait, ce qui est peut-être un peu frustrant de ce point de vue-là, c'est que tu ne peux, entre guillemets, rien faire si ce n'est tuer l'Hiérodiacre. Bien évidemment, ouais. Le joueur Old Dominion ne va pas vous laisser tuer l'Hiérodiacre. Il va tout faire pour vous en empêcher.
Ce serait un peu ballot.
Voilà. Donc, bien sûr, l'armée a encore quelques surprises en réserve. De ce point de vue-là, elle n'a pas trop changé. Mais donc, voilà. C'est pour la divinité, du coup. Ah, mais en fait, je joue une divinité à 1000 points. Elle commence cache au tiers 2. Et arriver au tier 3 va pas être si long que ça parce que bah, tu dis, ah bah c'est moins 8, il faut que je génère seulement 9 tokens. À 1000 points, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. Et puis à 1000 points, à moins d'avoir conçu ta liste exprès pour tuer une divinité, parce que t'as certaines armées qui peuvent le faire, les Dwegom notamment, parce que t'as les tueurs de dragons.
Oui, tout à fait.
Mais sinon, bah, va dire à 1000 points, faut que tu sois prêt à tuer une divinité. Bah t'as des armées qui peuvent juste pas en fait. Je veux dire, explique à un spire qu'à 1000 points, il doit tuer une divinité, en fait. Il va te regarder, il va faire « Ah, bah, je joue pas, en fait. » C'est plus rapide.
Ouais, merci, bien joué.
Le Nord, il te dit « Bah, ok, faut que ce soit moi qui charge. » Et même comme ça, chaud, quoi. Bon, après, le Nord, il peut faire... Aujourd'hui, maintenant, il peut faire un Konungir qui est vraiment boosté aux hormones. Le machin, il fait 13-14 attaques avec châtiment en duel. Mais bon, c'est une autre question. On en reparlera peut-être un jour. Peut-être que Shipper en parlera dans un épisode sur les Nords.
Il est prévu, en tout cas, l'épisode sur les Nords.
Eh ben, écoute, peut-être qu'il en parlera. Il en parlera mieux que moi, ça, c'est certain. Somme toute, le Old Dominion, pour revenir à cette vue plus macro, moins portée sur chacune des unités... Il n'y a effectivement pas de gros changements sur les mécaniques. Bon, si ce n'est qu'on perd les Kyres. L'unité est disparue, elle n'existe plus. Elle n'est plus sur les armées. les persos ont un petit peu perdu en défense. Le Xiliar qui est passé de défense 3 à défense 2. Le Stratégos est passé de défense 3 à défense 2. Les sorciers ont perdu un point de vie. Le Hiérodiacre et l'Archimonde sont passés de 5 à 4 points de vie. La divinité est toujours aussi forte. Il y a eu quelques reliques qui ont changé. La cuirasse de l'ombre d'Azilia qui était avant beaucoup moins intéressante et qui aujourd'hui est pour moi la meilleure armure, même si les autres sont quand même assez intéressantes. Il y en a des armures aussi qui sont beaucoup moins chères mais qui sont pas forcément situationnelles pour autant. Pour moi le gros changement c'est l'armure aventine dans les reliques, c'est le on passe de bonjour je file endurci 1 un régiment, enfin endurci plus 1 d'ailleurs, en plus c'était endurci plus 1 si je ne m'abuse, un régiment dans lequel je me trouve, aujourd'hui c'est tu donnes tenace. Bon, on va pas se mentir que même si le prix est descendu de 5 points, ça fait mal. Mais dans un régiment de Vareg, dans un régiment de prétoriens, qui sont toujours aussi bien d'ailleurs les prétoriens, qui sont maintenant vraiment différents des légionnaires, c'est plus juste des légionnaires plus. Donc, honnêtement, je trouve que la liste d'armées V2 du Old Dominion est quand même un tout petit peu plus intéressante parce qu'il y a plus d'options, il y a moins de choses évidentes. Tu te dis plus, je joue seulement un Archimandrite en Seigneur de Guerre parce que de toute façon, c'est lui qui a la meilleure suprématie. Et à 2000 points, bah, je switch, je prends un Stratégos. Donc il y a, je pense, une vraie variété. Même le Xillard, où tu te dis je peux clasher deux fois par round pendant un tour. Avant, c'était faire taper des prétoriens ou des légionnaires deux fois, aucun intérêt. Là, des Varengs ou des Atanatis, bon, on y réfléchit, quoi. On y
C'est
réfléchit.
sûr.
Ah, des Varengs qui clashent deux fois. Vous allez me dire que on fait 26 attaques à fendre 4 blind raiser en ligne. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça se réfléchit. Donc voilà, il y a un vrai intérêt. L'archimandrin était toujours bien, parce que faire deux actions de lancement de sort, pouvoir relancer une fois par tour tous les dés que tu veux, ça reste quand même très très bien. Mais du coup, il n'y a plus une évidence pour moi de l'archimandrin, ce qui pouvait être le cas avant. Donc non, de ce point de vue-là, je pense que c'est très bien, ça ramène un peu de variété. On en parlera peut-être avec les sbires aussi, mais c'est vrai aussi. Mais on en parlera à ce moment-là. Les sbires, il y a eu un très 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 bon. Une très très bonne revue de la liste d'armées de façon générale. Donc non, de ce point de vue-là, moi je suis très content de cette liste d'armées au DV2. J'avais peur d'un effet nouvelle figurine. Il faut buffer les
Ouais,
ventes avec les Atanatis et les
c'est
Varag.
ça.
Et finalement, non, ça va. Quand j'ai vu le profil la première fois, j'ai fait ça sent un peu le buff là quand même. Et donc oui, ils ont été buffés, mais ça reste cohérent par rapport au reste de la version et au reste des unités qui sont dans la même tranche de points et dans le même rôle qu'eux en fait. Donc ça va. Franchement, c'est ok et ça se tient.
Ouais. Bon, faut voir à la suite, quoi. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme question? Par rapport à ces listes que tu as fait, donc bien sûr, c'est pour découvrir et tu l'as fait dans un contexte d'économie et quoi que ce soit. Quels
Aussi.
seraient, selon toi, les achats ou les modifications, on va dire, sur du 1500 points, puisque même si le standard PB c'est 2000, 1500 ça reste pour l'instant la. Un bon format, moi je trouve, pour jouer et faire des tournois assez facilement là. Qu'est-ce qui pourrait changer ou en tout cas comment est-ce qu'on pourrait, en minimisant certains achats, réussir à totalement changer la liste ou des choses comme ça?
Je pense qu'à partir de la liste à. Alors, si je ne me puisse, c'est à partir de la liste à 1000 points. La liste à 1000 points, tu sors complètement les légionnaires de la bande du Stratégos, donc tu ne gardes que les Atanatis et les Cataphracti.
Ouais.
Et tu rentres un Hiérodiacre. Et tu le rentres avec juste une bande de légionnaires, et par exemple, soit des Caryatides pour apporter un peu de tir, soit des Canéphores pour apporter un gros punch au corps à corps. Sachant que l'Hiérodiacre, c'est le personnage qui génère des points de son pouvoir, donc c'est jamais perdu de toute manière. Il a un petit blast magique, mais c'est pas pour ça qu'on le prend. Et accessoirement, il ouvrira la porte aux autres unités mythologiques, si j'ose dire, de la liste d'armée. Parce que les centaures, enfin une partie des centaures en tout cas, puisqu'il n'a pas accès aux deux unités, il a accès qu'au Kerikas, si ma mémoire est bonne, je vais revérifier ça quand même, avant de dire des bêtises. Il a donc accès exclusivement au Kerikas, il n'a pas accès aux Prodromi, qui sont la version corps à corps. Il ouvrira la porte également aux Bucéphalies, il ouvrira la porte aux cultistes et aux Achachines, donc c'est pas juste une question de je veux un générateur de points, des légionnaires et des statues. Dans un futur plus ou moins proche, ce sera aussi la porte d'accès aux centaures, aux minotaures, aux cultistes de l'Apocalypse qui sont encore vivants chez l'ancien Dominion. On peut aussi se dire qu'on va aller chercher le Xilarque et se dire pas mes Atanatis, je les monte pas du tout en Atanatis, je les monte en Vareg. On va chercher le Xilarque, on monte un des deux packs de légionnaires de la boîte de starter en prétorien, donc on met le Xilarque dans les prétoriens, on prend des Varag à côté, ça fait un autre bataillon complètement. Donc le seul. Et tu te dis même, le Stratégos, je le sors complètement de l'équation et je passe sur un Xiliarque, un Hiérodiacre, un Xiliarque, un Archimandrite. Donc, en minimisant les achats, même en partant de cette boîte avec. Enfin, si on minimise les achats, plutôt parce que je me perds un petit peu. Si on minimise les achats et qu'on garde ce socle de Strategos plus légionnaire et cataphracti au strict minimum, on a la possibilité de se dire bah Xiliarque, donc prétorien plus Vareg. Si je garde le socle Athanatic cataphracti, je prends un archimandrite ou un hiérodiacre avec légionnaire plus bah, des golems par exemple pour l'archimandrite pour avoir du lourd ou des moris si on veut du léger. Pour le hiérodiacre, légionnaire plus bah, des canéphores ou des cariatides si on veut encore une fois des statues, soit du tir soit du corps à corps. Donc après c'est pas des star, enfin c'est pas des packs, c'est pas des bundles avec des réductions dessus, donc c'est vrai que c'est pas forcément oui. Automatique. Tant que le starter V1 existe encore, on peut viser. Enfin d'ailleurs, je regarde. Tu vois, je suis en train de regarder sur le site. Je crois que non, il n'est même plus disponible. Tu vois, on commence à résoudre la question. Donc non, voilà. Il n'est plus disponible. Oubliez ce que j'ai dit. Mais par exemple, on se dit avec le starter First Blood de la faction, puisque lui est disponible et va bientôt changer en plus de toute manière. Le starter First Blood, je pense, c'est celui avec les Wadrones, du coup. Qui lui ne veut pas changer de sitôt. Bah dedans, tu as le Xiliarque en question, 12 légionnaires et 12 fantômes. Mm. Qui dit bah, ok, bah, ça peut aller renforcer le futur bataillon d'un archimandrite, ça peut buffer le régiment, soit du Xiliarque, soit du Stratégos qui sont déjà là. En termes de composition de figurines, il est plus orienté First Blood, donc ça reste du bon renfort si vous le partagez avec un joueur Wadrun. Surtout que c'est bien aussi pour démarrer à First Blood si vous avez envie de vous intéresser au jeu, il est bien aussi, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Il y a une personne qui prêchera la parole de First Blood beaucoup mieux que moi, hein, je ne vise personne.
Ça fait quelques temps qu'on se dit qu'il faut qu'on récorde ensemble.
Et pourtant il serait temps qu'il arrive enfin dans les épisodes, hein.
Oui, c'est le problème de temps, c'est moi qui ai eu un petit problème et il faut que je le recontacte.
Ah bah oui, mais voilà. Et sinon, pour parler bah, du coup du starter First Blood, du futur starter First Blood Old Dominion, lui sera constitué donc de deux groupes de quatre légionnaires, si je ne m'abuse, quatre Mori, quatre Vareg, un Stratégos monté et un Option, donc l'ajout d'unité en résine. Donc le Stratégos monté, il a les cataphracties pour aller avec lui, donc c'est sympa si on a pris le starter pack juste avant. Et pour 70 balles, bah, ça vous permettra de compléter vos régiments et de faire des choses intéressantes. Donc, sachant que les Vareg, encore une fois, bah, ça peut être monté comme des Athanati, les légionnaires peuvent être montés en prétorien, les Mori peuvent être montés en. Ah, bah non, il n'y a pas d'autre montage. Non, il n'y a pas d'autre montage en fait. Non, je me suis trompé. Je devais penser à autre chose. donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire. Le starter restera, je pense, quand même une excellente base, quoi qu'il advienne. Quitte peut-être même à en prendre deux, avec le seul désavantage que tu as deux stratégos. Bon, soit tu le refileras à quelqu'un,
t'en feras. Tu le refiles ou tu le repimes pour se faire une UA ou un truc de retenue. Enfin,
voilà, par exemple. Et donc ça restera une bonne base parce que des légionnaires. Ou des prétoriens d'ailleurs, vous en aurez toujours besoin. Le légionnaire restant le meilleur rapport d'armée dépensée pour point de sombre pouvoir, hein, ça va pas changer. Les alternatives à Rike, voilà, on en a parlé, moi je les trouve vraiment cool. Les deux unités, autant l'une que l'autre, pas pour les mêmes raisons, mais les deux sont intéressantes. Les cataphracties, bon voilà, si vous avez quand même envie d'en jouer un pack de 6, ça se joue, c'est pas forcément le plus outil, mais ça a quand même de la gueule sur la table, par contre, ça va vraiment de la gueule. Non, mais visuellement, les figurines claquent quand même. J'en ai trois. Il faut que je me prenne le Stratégos monté et trois gars de plus. Et franchement, c'est une unité qui pète sur la table. Ça a de la présence. C'est vraiment cool. Et puis à jouer, c'est pas complètement. Enfin, j'en parlais. C'est pas déconnant. C'est plus le marteau ultime que ça a pu être avant. Mais c'est très loin d'être déconnant aujourd'hui. Donc je trouve ça quand même vraiment cool. Et c'est pas ridicule contre ben, pas mal d'unités du jeu. Et puis. Ok, ils ne sont que Brutal Impact 2, t'as toujours la possibilité de payer le Scofnung sur le monstre Stratégos monté et de l'emmener briseur de ligne. Et du coup, il y a le bastion et le bouclier qui sautent aussi en même temps sur les attaques d'impact. Donc,
oui, c'est pas mal.
Donc t'as quand même des choses à faire, mine de rien, avec eux. Voilà, donc au niveau de la liste à 1500, ce que tu peux changer, Il y a quand même plein de choses, il y a plein d'options disponibles, encore une fois. Donc c'est pas mal, quoi.
Ok, des petits conseils pour le débutant, qu'est-ce qu'il doit faire attention, il faut pas qu'il prenne trop le melon, enfin bon, bien sûr, c'est OD, c'est une faction qui est très résiliente, puisqu'ils n'ont pas de résolve ou quoi que ce soit. Mais quels sont les petits points d'attention que devrait faire tout joueur OD quand il va commencer à pousser ses premiers traits?
Effectivement, tu vois, t'en parlais, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est oui, on ne fait pas de test de résolution, mais non, on n'est pas immunisé au brisé ou à l'abattu. Donc en fait, on est toujours soumis malgré tout au fait que si on perd la moitié de ses stands, on a quand même des malus qui sont assez violents. On peut malgré tout être abattu, donc on n'est pas à l'abri de se faire sauter des régiments parce qu'on fait pas attention ou parce qu'on a fait un mauvais craquage de dés. Donc ça, c'est la première chose dont il faut faire attention. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que oui, tu es plus résilient que ton adversaire, mais il faut quand même pas oublier non plus que tu dois quand même sacrifier des choses. Et qu'il faut pas non plus trop en sacrifier, parce que oui, tu dois sacrifier des unités pour monter en puissance. Mais mon commentaire reste le même que pendant notre première lecture, c'est tu ne dois pas trop sacrifier de choses d'un coup. Si tu te jettes juste sur l'ennemi dans l'idée de faire en sorte que tes unités derrière soient plus fortes, en fait tu ne seras pas posé sur les objets, tu ne seras pas au bon endroit, tu seras hors de position et tu vas juste te faire manger. Donc il faut quand même y faire attention à ce que tu fais. C'est pas juste on se jette sur l'ennemi et puis on suicide et puis c'est parti quoi. Il faut vraiment réfléchir un minimum quoi. Sur ses sacrifices et sur son positionnement finalement, donc c'est pas juste open bar. Et puis surtout si on joue un archimandrite, la portée des sorts est pas énorme.
Elle est pas folle.
C'est donc il faut faire attention à son placement. Voilà, c'est aussi assez important. Dernier conseil, pour ceux d'entre vous qui auront envie de s'orienter vers une liste centrée autour de la divinité. Oui, elle tape très fort. Oui, elle est particulièrement violente, mais elle n'est pas invincible.
Ça serait fort.
Sinon, ce serait trop fort. Mais on ne va pas oublier que même si vous pouvez relancer vos jets de défense, si vous avez 3 stands de pauvres miliciens à 75 points qui vous tirent dessus au tour 1, au tour 2, ok, ils vont pas vous faire beaucoup de points de vie, mais t'as que 10 points de vie, ça descend vite en fait. Et ok, tu peux relancer tes jets de sauvegarde une fois. Les deux autres séquences de tir, tu vas pas pouvoir le faire. Et puis t'es pas à l'abri de te faire bloquer, de te faire keblo par une unité qui va juste être là pour te retenir. Au début, la divinité n'est que 8 attaques à clash 2. Et elle n'a pas tant de pénétration d'armure que ça. Donc en fait, la divinité, si elle se fait prendre de vitesse parce qu'elle se fait bloquer par un truc qu'elle n'arrive pas à tuer, et qu'elle commence à se faire canarder, ça va vite. Ça va très 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 vite de mourir en fait. Mais comme un con, hein, juste parce que tu te fais canarder par 3 pauvres miliciens de merde qui te... c'est David et Goliath. Hein. C'est littéralement, tu te fais tuer par une pierre.
Ça sent le vécu.
Alors même pas, non, parce que ça
m'est jamais arrivé. T'as la frustration là. Putain.
Alors non, parce que je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que c'est arrivé à un gars sur un rapport de bataille comme ça. Le gars, il dit, en fait, je me suis fait bloquer. Et ma divinité, elle a rien fait. Il y a 300 points qui partent à la poubelle sans que tu puisses rien faire, en fait. Donc,
mais c'est ça, la beauté.
Oui, elle tape très fort. Oui, elle tape très fort. Oui, elle est potentiellement extrêmement dangereuse. Mais il faut savoir l'utiliser, quand même. Faut pas la jeter n'importe comment. Encore une fois.
Mais tu vois, je suis d'accord, ça peut bloquer des gens, des joueurs qui seraient habitués à des jeux comme 40K ou à ouais, pour ne pas les citer, mais où on se dit j'ai un truc qui est ultra badass, mais voilà, je me retrouve très vite enlisé dans des vrais jeux, on va dire entre guillemets compétitifs. dans lesquels j'ai joué, justement, tu as des pièces maîtresses, mais plus tu as des, comment dire, plus tu as des gros avantages, et plus ta faiblesse est énorme, en fait, pour compenser. Et c'est ça qui est beau dans Conquest. C'est que, comme tu dis, les dernières news, c'est pas forcément les plus pétées, elles apportent des choses, mais tout ce qui est apporté quelque part, tu le perds ailleurs. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu, quoi.
Tout à fait. Et en plus, moi, ce que je trouve intéressant avec la divinité, c'est que du coup, c'est pas juste un méga marteau invincible, en fait. C'est vraiment une pièce qui nécessite de la réflexion. Alors, dans la liste, au départ, parce qu'il faut l'alimenter, et à l'usage, parce qu'il faut parfois la jouer, quoi. On se dit un truc comme ça, c'est évident, c'est tu l'envoies tout de suite. Ben,
Bah non.
non, pas forcément.
Et puis en plus, si on écoute quand même les épisodes du Père Liénard, on se rend compte que les divinités Dominion, c'est plus du support que des gros ports de première ligne.
C'est oui et non parce qu'elles
Oui et non,
dépendent
mais...
de comment dire elles dépendent
Attention, on
des
arrive sur le
armées
fluff là.
ouais alors les divinités pour être tout à fait exact elles dépendent des oins pour s'éloigner du brasier central au milieu de Capitas pour juste en fait se sortir de là parce que sinon elles y sont attachées elles ne peuvent pas s'en aller sans mourir en fait sans disparaître. Par contre, une fois qu'elles ont suffisamment de puissance, elles deviennent entre guillemets indépendantes, et à ce
Ouais.
moment-là, elles peuvent devenir vraiment dangereuses. Et ça se traduit, hein. De toute façon, quand on voit le profil, tu vois le profil de la divinité tier 3,
Et
c'est une divinité. C'est une
vrai, mais
divinité,
tire quoi?
c'est. Mais voilà, faut aller au tier 3, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as une vraie. T'as une vraie. Une vraie figurine de enfin je veux dire arriver au tier 3 la divinité c'est vraiment un monstre c'est elle est vraiment monstrueuse et c'est cool parce que tu payes une figurine 300 points t'as envie de voir un truc qui fait mal quoi t'as envie de voir un truc qui va enfoncer les lignes adverses qui va faire des trous qui va faire fuir tout le monde et c'est ce qu'elle fait mais au tier 3 et
Donc
même au
il faut
tier 3
l'alimenter, comme
Et
tu
même au
dis.
tier 3, elle n'est pas invincible pour autant, parce qu'elle se soigne entre les paliers, certes, mais bon, elle était au palier 1 et au palier 2, elle était à un point de vie, bah, et elle reste que 5-6 points de vie, quoi. Donc elle n'est pas invincible.
Non,
Et de toute façon,
heureusement, heureusement.
même dans le fluff, c'est écrit que lors de la Théomachia, ou le combat des dieux, hein, un peu de choses près en latin, Cléon, donc un des trois grands dieux majeurs du triumvirat du Dominion avec Azelia et Niduin, il leur a botté le cul et qu'il les a rendus suffisamment faibles dans le futur pour que les mortels puissent les vaincre en fait. Alors, au prix d'efforts démesurés,
Oui, voilà.
mais
Quelques sacrifices humains, on va dire.
quelques. Mais
Une
voilà,
poignée.
donc elles sont pas invincibles. Et puis voilà, comme on disait, la divinité elle se fait prendre de flanc par une, par deux unités, elle est bloquée, au bout d'un moment elle peut pas être partout non plus. Et ça c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est que la divinité ne doit pas être votre seule force de frappe. Le reste de votre armée ne doit pas être juste de la nourriture pour la divinité, il faut d'autres trucs à côté. Parce que sinon, la divinité est une cible évidente.
Toujours un plan B.
Oui. Bon, là, en l'occurrence, quand tu vois le plan A, c'est sûr que c'est dur de la voir mourir. Mais pourtant.
Mais ça peut, ça peut, ça
Et
peut,
oui.
ça peut. Et bah écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Non, pas particulièrement.
Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné envie enfin, pour tous les joueurs rodés qui en devenir, bah, ça vous aide à voir à peu près à quoi vous attendre pour cette V2. Je te remercie beaucoup, Corka. On se retrouve pour les
Avec
Spears
plaisir.
ou pas alors?
Ah, il va bien falloir. Hein.
Bon, bah écoute, on essaiera de se faire ça. Bah voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous. C'était Billy the Kid avec Corka. Fin de l'épisode. À vous les studios et bonne soirée.
Bonne soirée.